Radio Okapi. Journal présenté par Jocelyne Moussaou Pondé.
Prévention contre le Covid-19, les Pays-Bas octroient une enveloppe de 115 millions de dollars aux pays en développement, dont la RDC. Persistance des tueries des civils à Djougou. La coordination de la société civile demande au chef de l'État de décréter un état de siège en Ituri et de nommer un gouverneur militaire pour diriger la province. Jean-Marc Mazio est notre invité ce matin. Le chargé de mission du programme Starec parlera de projets de stabilisation de cette structure étatique en Ituri avec l'appui de la MONUSCO. Bonjour et bon début de semaine à tous. Les Pays-Bas ont mis à la disposition de la RDC ainsi que d'autres pays en développement un montant de 115 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'ambassade des Pays-Bas ici en RDC. Un montant qui intervient après avoir versé une contribution de 10 millions de dollars pour l'aide humanitaire à la RDC, indique la même source. D'autres détails avec Paul Matendo.
La contribution néerlandaise est destinée à la prévention dans les pays les plus pauvres pour empêcher une nouvelle propagation du virus, mais aussi à l'aide humanitaire à ceux qui sont les plus touchés. L'aide psychosociale est un élément essentiel de l'aide d'urgence, souligne la même source. À ce qui concerne l'aide sociale et économique, ce communiqué rapporte que les Pays-Bas vont soutenir non seulement la population, mais aussi les pays eux-mêmes. La contribution néerlandaise sera axée sur l'utilisation des mécanismes de financement existants et de structures de coordination multilatérales comme la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux qui travaillent directement avec le gouvernement sur la situation financière et les systèmes de soins de santé, précise ce communiqué. Ces agences multilatérales utiliseront les financements néerlandais pour les pays où les besoins sont le plus élevés en achetant de manière centralisée pour plusieurs pays à la fois des matériaux de protection et des médicaments.
La priorité pour plusieurs États en ce moment reste le Covid-19. En RDC, plus ou moins 5 structures fonctionnent pour lutter contre cette pandémie. Nous avons entre autres le secrétariat technique de Riposte, la Task Force, le comité multisectoriel, le ministère de la Santé et le Fonds national pour la solidarité. Quel est le rôle de chaque structure et quel est son fonctionnement? Tentative de réponse avec Richard Junior Kamunga.
La Task Force, c'est une structure stratégique spécialisée du président de la République qui lui permet d'être au courant de ce qui se passe au niveau de la riposte. Elle est dirigée par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de couverture des maladies universelles, Dr. Roger Kamba. Le secrétariat technique des ripostes, c'est l'institution qui s'occupe de la mise en œuvre opérationnelle, qui organise la riposte sur terrain en faisant les dépistages, les traitements des malades, la sensibilisation de la communauté et la désinfection des liés. Il est sous la direction des INRB, dont son directeur et le docteur Jean-Jacques Muyembe. Le comité multisectoriel, une structure rattachée au Premier ministre qui a pour rôle de réunir tous les autres secteurs impliqués dans la riposte, notamment les ministères des recherches scientifiques, transport, intérieur, défense, communication et médias, finances, budget. Sylvestre Ilunga Ilungamba est le responsable. Le ministère de la Santé préside le comité national de coordination. C'est l'organe qui fait le suivi des épidémies si l'ensemble du pays. Dr. Eteni Longondo fait ce travail. Le Fonds national de solidarité est une structure de mise en commun des ressources. Donc, il a les mécanismes de collecte de fonds qui sont pris pour être affectés à la riposte de COVID-19 sous la supervision du cardinal Fridolin Ambongo Besungu.
Plénière au Parlement, le président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo fustige le non-respect de l'ordonnance du chef de l'État par cette institution. Pour Kyungu Akumwanza, le Parlement devait s'en tenir à un seul point d'ordre, à l'ordre du jour, comme stipulé dans l'ordonnance du chef de l'État. Pour cela, il invite tous les partis qui se reconnaissent dans le pouvoir du président de la République de se regrouper autour de lui pour sauver les meubles. C'était au cours de la conférence de presse qu'il a animée samedi à Lubumbashi. On écoute Kyungu Akumwanza dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Je voudrais savoir sur quelle base ou de la Constitution ou du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ils peuvent tenir une assemblée avec 60 personnes sur 500. Parce que c'est illégal. Alors pourquoi ils se sont réunis et ils ont pris des décisions? C'est aussi illégal. Là, ils vont vous dire non, nous sommes dans un état d'exception. Mais l'état d'exception leur demande de traiter seulement un point. Mais ils en ont ajouté 15 pour narguer les chefs de l'État. C'est là où nous devons agiter la sonnette d'alarme pour dire aux chefs de l'État qu'il n'y a pas de coalition qui tienne ces gens-là et guettent au moindre mouvement. Vous allez voir comment ils vont se réunir. Les gens de FCC, ils sont pressés pour regagner le pouvoir. Aucun membre de FCC ne peut parler du bien du chef de l'État ou être solidaire avec lui pour dire nous sommes dans une même coalition. Rien. Les chefs de l'État a aussi, son parti a aussi, et ses alliés. Nous lançons l'appel à tous ceux qui se reconnaissent en lui de se regrouper autour de lui pour sauver les mêmes.
Au chapitre sécurité, rendons-nous en Ituri où la coordination de la société civile demande au chef de l'État de décréter un état de siège sur l'ensemble de cette province et de nommer un gouverneur militaire pour diriger l'Ituri. Son coordonnateur l'a dit hier dimanche à Radio Capi. C'est suite à l'accentuation des tueries par des assaillants de la Codeco dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu. Cette structure indique en l'espace d'une semaine plus de 50 personnes, dont des civils, des militaires et policiers sont morts au cours des attaques de ces hors-la-loi. Son coordonnateur Jean Bosco Lalo indique que la situation sécuritaire de l'Ituri devient très inquiétante. On l'écoute, il est au micro de Martial Kizabiamungu.
Face à l'insécurité qui continue à persister, parce qu'il faut dire que pour la semaine ici qui s'achève, il y a plus d'une cinquantaine de personnes déjà décédées en Ituri. Et imaginez-vous la suite. Si nous rentrons depuis 2017, c'est plusieurs milliers de morts. Pensons que trop c'est trop. C'est pourquoi cette demande de nos parlementaires, nous les appuyons, mais nous pensons qu'ils ont demandé peu. Ils auraient dû demander mieux que ça. Pour nous, c'est l'ensemble de la province de l'Ituri qui mérite un état de siège. Et l'état de siège suppose qu'on va nommer un gouverneur militaire. Évidemment, pour une durée déterminée, en vue de s'assurer que dans la province, la sécurité rentre. Comment peut-on imaginer ? Aujourd'hui en Ituri, l'administration est paralysée. Donc, le gouverneur, lorsque une autorité politico-administrative ne sait pas contrôler ses administrés à travers les services qui existent, il faut se dire qu'il y a péril à demeure.
Au sud Kivu, une accalmie s'observe à Minembwe Centre après les affrontements d'il y a trois jours entre les FRDC et la coalition Mai Mai dans les territoires de Fizi. Le porte-parole de l'armée dans cette zone confirme que la situation est sous contrôle. Quant au bilan, Dieudonné Kasereka parle de 14 Mai Mai neutralisés, 3 militaires tués et 4 blessés. Une partie de la population est en déplacement. Le porte-parole, secteur opérationnel au sud Kivu, aurait bien assure la raison immédiate qui a provoqué les affrontements du 23 avril autour de Minembwe Centre. Il a été joint au téléphone par Jean Kassami.
Il y a une coalition Mai Mai qui avait kidnappé 3 femmes. Ils ont violé les femmes et les tué. Et puis, il fallait que nous puissions aller récupérer les corps. Et c'est comme ça que ces Mai Mai nous ont tendu d'embuscade depuis le 22 de ce mois. Et c'était le début des affrontements jusqu'à hier après-midi. Nous enregistrons 3 morts côté FARDC. 4 militaires ont été touchés, ont été blessés. Mais du côté Mai Mai, ils ont perdu 14 personnes dans 3 localités différentes. Dans chaque localité, ils ont été repoussés. C'est comme ça qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Vous savez, quand ça tire des deux côtés, c'est la population qui est toujours victime. Il y a une partie de la population qui a pris la direction de Minembwe Centre et il y a une autre partie qui s'est dispersée dans la forêt. Nous continuons à déplorer ces situations nous imposées par ce groupe puscule de Mai Mai qui pullulent un peu partout et qui n'ont qu'un autre objectif que d'insécuriser la population, mettre la population dans des conditions inhumaines. Actuellement, où nous vivons la période de la pluie et d'autres intempéries. Alors, nous déplorons vraiment cette situation.
Avant l'actualité en dehors du pays, notez que Radio Capi lance à partir d'aujourd'hui une nouvelle émission intitulée « Okapi École ». Ce nouveau programme d'enseignement à distance proposé par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en partenariat avec l'UNICEF et Radio Capi occupera les élèves du primaire et secondaire en confinement sur l'ensemble du pays. Comment se passera cette émission sur nos antennes ? Des explications avec Richard Junior Kamunga.
La radio Capi prévoit la diffusion de deux émissions de 50 minutes par jour. La première passera à 9h05 heure de Kinshasa et la seconde à 14h05 de lundi à vendredi. Puis le samedi à 14h05 et le dimanche à 10h05, 16h05 et 17h05. Le ministre Willy Bakonga rassure avant tout les parents en ce qui concerne l'année blanche.
Il ne serait pas question d'une année blanche puisque le maximum de cours qui devraient être enseignés a été déjà donné par les enseignants. Il nous reste pratiquement 30 jours de cours.
Le représentant de l'UNICEF en RDC, Dr Edouard Bekbeder, précise que son institution supportera la communication digitale de ses cours.
Nous allons supporter ici le gouvernement sur une plateforme en communication digitale pour qu'on puisse retrouver les cours de la télévision et des radios d'une façon différée.
Une belle expérience des radios au Capi après 18 ans. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique lance un appel aux parents d'être branchés sur la radio au Capi.
Vous savez, il y a un problème parfois d'électricité. On peut acheter les piles.
Bonne application aux élèves à travers la fréquence de la paix.
L'invité.
Avant l'invité, c'est bien évidemment l'actualité en dehors du pays. L'Organisation mondiale de la santé a averti que les patients qui se remettaient du coronavirus ne pouvaient pas être immunisés contre la réinfection car les gouvernements désireux de rouvrir leurs économies considèrent les passeports d'immunité comme un moyen d'accélérer le retour au travail. L'avertissement intervient alors que le nombre de morts liés au Covid-19 dépasse les 200 000. La technologie est venue à la rescousse des musulmans en Italie pendant le mois sacré du Ramadan. Alors que le pays commence à assouplir les restrictions sur le coronavirus, les prières du vendredi sont diffusées sur Facebook et des moments de réflexion collective sont également diffusés en ligne. Les dirigeants islamiques ont appelé ce Ramadan un temps pour réfléchir et redécouvrir la famille.
L'invité.
Jean-Marc Mazio est notre invité. Il est chargé des missions du programme Starec en Ituri. Il nous parle des projets de stabilisation que cette structure étatique exécute en Ituri avec l'appui de la MONUSCO dans le sud d'Irmou et en territoire de Djougou. Il est interrogé par Martial Kizabiamongo.
Jean-Marc Mazio, bonjour.
Bonjour.
Les programmes Starec, on en parle depuis quelques années déjà, mais très peu savent ce que c'est. Pouvez-vous, en quelques mots, nous parler de ces programmes?
Ok, comme vous le savez, le programme Starec étant un programme du gouvernement de la République, s'occupe depuis plusieurs années des questions de stabilisation dans la région de l'Est particulièrement, ce qui nous concerne ici au niveau de Ituri. Et puis, dans le cadre de ces programmes, nous travaillons avec les partenaires. Mais le partenaire principal de ces programmes, c'est la MONUSCO. Comme vous le savez, la MONUSCO est aussi mandat de stabilisation. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous réalisons plusieurs projets.
Parmi vos partenaires internationaux et stratégiques figure la MONUSCO, comme vous l'avez dit. Quel est l'apport de la mission onusienne dans ce processus?
Oui, le grand partenariat avec la MONUSCO, c'est d'abord un accompagnement technique dans l'exercice d'évaluation des situations sécuritaires, situations de stabilisation. Nous recevons cet appui-là et nous avons toujours travaillé ensemble. Il y a aussi, de l'autre côté, il y a aussi un appui direct financier. Mais ensemble avec la MONUSCO, nous avons mis en place un mécanisme de mobilisation des ressources auprès des bailleurs. Et ça, c'est le mécanisme de fonds de cohérence à travers l'I4S. La MONUSCO nous appuie aussi sur le plan logistique. Je pourrais vous dire d'une manière amassée, l'appui de la MONUSCO reste significatif.
Jean-Marc Mazio, vous êtes Congolais, vous travaillez à l'Ituri où l'on assiste à l'activisme des groupes armés. Pour vous, quel est l'impact de l'action de votre partenaire que la MONUSCO dans la restauration de la paix à l'Ituri?
Bon, nous avons travaillé avec la MONUSCO à Mambasa. À Mambasa, vous vous souviendrez, en 2012 déjà, avec la tragédie de Morga, quand il y a eu des problèmes au niveau de la réserve de fonds au Capi. Nous sommes allés avec la MONUSCO, tout était déjà coupé là-bas. Nous avons travaillé là-bas pendant 3 ans, donc je peux dire 2 ou 3 ans après notre passage à travers le projet Amani Mingira Maendeleo, je crois que les résultats sont là, sont palpables. Aujourd'hui, on peut parler de présence de l'État. Il y a la police qui est restaurée, la justice qui est restaurée.
Parlons de vos activités. Le Starec vient de décrocher 5 100 000 $ américains pour le territoire d'Indjougou. À quoi va servir prioritairement cet argent?
Nous venons d'obtenir au moins 5 millions pour l'appui des projets au niveau d'Indjougou. Et ces projets vont se focaliser essentiellement sur deux piliers. Nous avons les piliers restauration de l'autorité de l'État. Là, on va essayer un peu de renforcer le système de justice. La gouvernance locale, mais aussi la police. On va travailler aussi sur les rapprochements entre la communauté et les services de sécurité. Le deuxième pilier va se focaliser sur les retours, l'intégration socio-économique. Donc, on va se baser plus sur la jeunesse qui est vulnérable au risque. Essayer un peu de donner de l'emploi pour les décourager de se plonger dans les activismes des groupes armés.
Jean-Marc Bazio, pour terminer, à quand le début de la démobilisation des éléments de la FRPI qu'on prévit dans l'accord que ces groupes armés a signé avec le gouvernement congolais?
Voilà, l'accord a été signé depuis le 28. Actuellement, nous sommes déjà dans la phase de mise en œuvre des engagements de l'accord. Ici, nous saluons aussi les efforts du gouvernement congolais qui essaye un peu de s'acquitter de ses engagements. Vous avez suivi les différentes libérations des ex-FRPI qui contribuent efficacement dans l'amélioration des confiances. Pour le moment, l'autorité provinciale venait d'approuver déjà une nouvelle feuille de route qui prévoit d'ici le début du mois prochain le début du processus de désarmement et de mobilisation. Tout dépendra du respect de l'engagement de la part des partis. Nous entendons le jour J, je crois que ça va aller.
Jean-Marc Mazio, Radio Capi, vous dit merci.
Merci beaucoup, mon cher ami.
Jean-Marc Mazio, chargé des missions du programme Starec, il était interrogé par Martial Kiza Biamungu. Ce journal prend fin, il a été élaboré par Élisée Chikota et Julien Niamouini. Sylvain Baogueré, la mise en onde, merci de l'avoir suivi.